おかしい、おかしい。
Dialogue entre Congolais avec Kelly Nkouté à la présentation.
Bonsoir et bon début de semaine à tous. Expulsion des Congolais de l'Angola. Margot Wallström, secrétaire générale adjointe des Nations Unies en charge des luttes contre les violences faites aux femmes, a qualifié de dramatique la situation des femmes congolaises victimes de violences sexuelles lors des autres de ces opérations d'expulsion. Comment analyser cette déclaration et quels mécanismes mettre en place pour que ces expulsions se déroulent dans le respect des droits humains? C'est le thème de notre dialogue entre Congolais de ce lundi 7 février 2011. Pour en parler, je reçois dans cette émission Madame Faïda Mwangilwa. Elle est activiste de droits des femmes et ancienne ministre de la Condition féminine. Bonsoir, Madame Mwangilwa.
Bonsoir.
Maître Dismas Kitenge, le vice-président de la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme basée à Paris FIDH. Il est aussi chef des travaux à l'Université de Kisangani. Il est en ligne. Maître Dismas Kitenge, bonsoir. La réalisation me signale qu'il n'est pas encore en ligne. Avec moi dans ce studio, Maître Oswald Bafunyembaka, il est chercheur en droit international pénal. Maître Oswald, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes très nombreux à réagir au thème de ce soir. C'est le cas de Jean Bosco de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'expulser nos compatriotes de l'Angola est tolérable, mais les violer en les expulsant est insupportable. Que notre État prenne ses responsabilités, ou mieux, qu'il saisisse les instances judiciaires internationales. Mundala Kitenge de Kindo Maniema, ce n'est pas la première fois que les Congolais sont expulsés de cette manière de l'Angola. Je trouve que le gouvernement congolais est incapable de réagir, car plusieurs personnes originaires de ce pays n'ont ni passeport, ni visa et vivent paisiblement en RDC. Que les Congolais rentrent au pays, sinon ils seront toujours victimes en Angola, car notre gouvernement voit tous ces traitements inhumains et reste bras croisés. Merci de nous suivre à Sananga, au Cache Occidental, sur la 93.0 et à travers le monde sur www.radio-okapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Margot Wallström, secrétaire générale adjointe des Nations Unies en charge de lutte contre les violences faites aux femmes, a clôturé ce dimanche 6 février sa visite en RDC. Et c'est par la localité de Kamako, porte d'entrée des réfugiés congolais d'Angola au Cache Occidental, qu'elle a fini son périple sur place. Margot Wallström a déclaré dramatique la situation des femmes congolaises victimes des violences sexuelles lors des opérations d'expulsion des Congolais en Angola. Elle envisage d'impliquer les autorités angolaises pour arrêter cet acte qui touche à la dignité de la femme. Plus de détails avec vous, Sadala Chabani.
Environ 200 femmes violées sont enregistrées ce jour à Kamato, localité congolaise située à la frontière avec l'Angola. Dans l'entretien qu'elles ont eu avec Marco Wallström, ces femmes ont témoigné avoir été violées par des policiers et militaires angolais lors des opérations de refoulement. Elles ont confirmé également la mort de certains d'entre elles fusillées. Des victimes de violences sexuelles portant des traces de torture se sont présentées devant la joie du secrétaire général des Nations Unies en charge de lutte contre les violences sexuelles. Sur place, Margot a trouvé plus de 90 enfants qui ne savaient pas où se trouvent leurs parents. Margot Wallström n'a pas caché son indignation. Elle a exprimé sa détermination de poursuivre une lutte contre les violeurs.
C'est très grave ce qui se passe dans cette région et je pense que c'est très sérieux. Les femmes victimes de la violence sexuelle. Et il faut naturellement poursuivre ça. Il faut parler avec le gouvernement angolais. Il faut aussi arrêter. Je vais voyager en Angola pour rencontrer le gouvernement et j'espère le président lui-même.
Dans l'entretemps, les victimes de violences sexuelles entendent toujours la réponse à leurs demandes prioritaires. C'est la prise en charge médicale. De Kananga, Sadala Chabani, Radio Okapi.
Merci Sadala Chabani. Maître Oswald Bakunyembaka, vous êtes chercheur en droit international pénal. Comment vous analysez cette déclaration de Margot Wallström, qui est secrétaire adjointe des Nations Unies en charge de lutte contre les violences faites aux femmes? Une déclaration qui n'est pas la première en tout cas.
En tout cas, la première chose, c'est qu'il faut remarquer que Madame la secrétaire générale adjointe est une femme diplomate. Et que les diplomates savent au moins la finesse des mots qu'ils emploient. quand elle arrive jusqu'à dire que la situation est dramatique, c'est qu'elle se base sur des sources et des faits qui sont réels, et bien la situation est dramatique. Malheureusement, nous remarquons que notre gouvernement brille par son laxisme et l'inertie, et apparemment ce ne sont pas des faits qu'eux sont en train de remarquer.
Merci, Maître Oswald Bafoumbakaya. Cet auditeur de Kisangani dans la province orientale qui pose cette question, c'est l'honorable Odane Paulin qui dit ceci. Ce qui se passe à Kamako est vraiment déplorable. Comment on peut se permettre, surtout pour un pays ami, de refouler nos compatriotes sans moindre respect des droits humains? Ce qui est grave, c'est le silence coupable de notre gouvernement. C'est triste, le gouvernement n'est pas là pour constater, mais il doit agir en défendant les Congolais, leurs biens à l'intérieur comme à l'extérieur du pays d'Afrique.
Oui, mais je pense que nous raisonnons dans le même angle. C'est que le laxisme que je viens de faire remarquer est approuvé. Et comme vous l'avez remarqué, ce n'est pas la première fois que c'est fait. Si j'ai bonne souvenance, c'est que c'est depuis octobre 2008 qu'on a commencé à faire le premier rapport sur des expulsions suivies de viols. Et nous avons eu notre vague en 2009, en juillet 2009, et en décembre 2010, on en a même fait état, et nous avons eu des réactions du gouvernement qui, de leur côté, estimaient toujours que ce n'était pas vrai ce que les ONG étaient en train de rapporter. Aujourd'hui, quand Madame la secrétaire générale adjointe vient de réaliser encore les faits, c'est que ce sont des faits réels, et je pense que le minimum serait de prendre les choses en main, de notre courage en main, et de prendre des résolutions qui s'imposent. Je devrais faire remarquer que l'Angola est un pays membre de la SADC, et que dans la SADC, nous sommes régis par des conventions, et que nous avons des conventions qui nous permettent une facilité de circulation des populations dans cette zone. Nous ne sommes pas en train de soutenir l'illégalité dans laquelle nos compatriotes peuvent être en train de vivre en Angola, mais seulement il y a des normes de droit international privé qui régissent les expulsions. Les expulsions ne peuvent pas se faire en toute violation de loi comme si nous sommes dans un état sans nom. Je pense que ce que l'Angola est en train de faire, ce n'est que ce qu'on appellerait vraiment ce pouce de l'État congolais, excusez-moi, je l'ai dit.
Voilà, merci M. Oswald. De la réalisation, on me signale que M. Dismas Kitenge est en ligne. M. Kitenge, bonsoir.
Bonsoir, je devrais préciser que je ne suis pas avocat. Je suis tout simplement enseignant à la faculté de droit et ensuite je suis vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme.
Merci. Voilà, merci Monsieur Dismas Kitenge. Alors, nous parlons de la déclaration de Margot Wallström, qui est secrétaire générale adjointe des Nations Unies, en charge de lutte contre les violences faites aux femmes. Elle a déclaré dramatique la situation qu'elle a trouvée à Kamako, dans la province du Kassai occidental. Ce n'est pas la première fois que les Nations Unies s'expriment sur les violences sexuelles en RDC. Le secrétaire général de l'ONU l'a fait, il y a des ambassadeurs qui l'ont fait, même les ONG locales, mais les phénomènes continuent. Pourquoi, selon vous?
Premièrement, je pense que la déclaration de madame, c'est vraiment dans la droite ligne des dénonciations des graves violations des droits de l'homme qui sont commises ici par l'État angolais. C'est tout à fait normal qu'elle dénonce. Deuxièmement, j'estime que sa dénonciation va au-delà de ça pour être une interpellation des autorités angolaises à respecter les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Et troisièmement, c'est la répétition de ces actes. Je crois que l'intervenant qui m'a précédé a eu à faire allusion à cela. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et chaque fois que ça arrive, les Nations Unies, qui sont gardiennes des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, qui veillent à leur application par tous les États qui ont signé, les Nations Unies ont l'obligation de pouvoir dénoncer et interpeller les autorités à respecter leurs engagements. Mais je pense qu'aussi cette interpellation n'est pas que pour l'État angolais, mais c'est aussi pour l'État congolais, pour pouvoir veiller sur le respect des droits reconnus à ce sujet. Quelle que soit leur situation, qu'elle soit dans une situation d'irrégularité comme l'Angola est en train de prétendre, mais le gouvernement congolais devrait exiger le respect des droits de l'homme lorsque même on expulse un citoyen. Ce n'est pas le caractère illégal, soit-il, de son séjour c'est-à-dire que le caractère illégal ne peut pas être un prétexte pour violer les droits de l'homme de tout citoyen. Tout citoyen, quel que soit son statut, a un minimum de droits qu'on doit respecter. Là, le respect de l'intégrité physique, on ne peut pas le soumettre à des actes de torture, et on ne peut pas non plus l'enfermer ni violer encore tous les autres droits. Donc je pense que le rappel des Nations Unies se trouve dans leur rôle de rappeler les États à respecter les standards internationaux en matière de droits.
Il y a cet auditeur du Sénat Tikenge, Aline Riziki, qui m'ont dit bien aussi Thibault, qui dit ceci: je pense que cette déclaration n'est qu'un complément à celle des différentes ONG humanitaires en RDC qui avaient fustigé l'absence de notre État au processus de refoulement de nos compatriotes de l'Angola en violation de l'article 52 de la Constitution. Vous pensez que le gouvernement congolais ne s'intéresse pas à cette question?
Je pense que le problème ne devrait pas se poser en termes d'intérêt ou pas. Je pense que le gouvernement congolais s'intéresse à cette question, puisqu'en fait, toutes les dénonciations qui ont eu lieu doivent l'avoir interpellé. Mais nous ne sommes plus au niveau de l'intérêt ou de l'interpellation, mais au niveau des actes, des actions concrètes. Et les Congolais qui ont été expulsés, les victimes de ces actes, comme la communauté internationale, attend que le gouvernement du Congo interpelle le gouvernement angolais. D'abord par la voie diplomatique pour demander des explications. Et comme nous sommes en relation diplomatique avec la République d'Angola, la RDC devait le faire. Comment il peut le faire? Il peut d'abord appeler l'ambassadeur de l'Angola qui est là, le ministre des Affaires étrangères devrait appeler l'ambassadeur de l'Angola qui est chez nous pour lui demander de s'expliquer sur cette situation. Ensuite, lorsqu'il n'est pas satisfait de ça, il peut dépêcher une délégation à discuter avec les autorités angolaises. Et ça, c'est la première chose aussi au niveau des voies diplomatiques. La deuxième chose, le gouvernement du Congo devrait mener des enquêtes indépendantes pour arriver à déterminer ça et demander également que la poursuite judiciaire soit entamée contre les auteurs de ces actes qui se trouvent être peut-être des agents des forces de sécurité angolaises et demander que la justice angolaise puisse les sanctionner. C'est de cette manière que l'action devra se faire. Si elle n'obtient pas à la RDC satisfaction à tous ces mécanismes que je venais de mentionner tout à l'heure, le gouvernement de la RDC, devrait également se référer aux Nations Unies pour demander que les Nations Unies, à travers, par exemple, le mécanisme qui existe, le Conseil des droits de l'homme.
Là, nous sommes déjà dans les mécanismes. On va y revenir dans la deuxième partie de notre émission. Madame Saïda Mwangilo, vous êtes activiste de droits des femmes et ancienne ministre de la Condition féminine. Comment vous analysez cette déclaration de Madame Margot?
J'avais personnellement suivi les déclarations de Madame Margot. Je crois que ces informations sont troublantes. Ça choque en tout cas les communs de mortels parce qu'on ne peut pas comprendre comment un pays voisin peut agir ainsi. Et de deux, vous savez déjà les conditions que connaissent les femmes en République démocratique du Congo, surtout en matière de violences sexuelles qui constituent du reste des crimes contre l'humanité. Ce sont des crimes qu'il faut absolument condamner. Je crois que comme la secrétaire générale adjointe des Nations Unies en charge de la lutte contre les violences sexuelles est saisie du problème, il y a lieu d'ouvrir une enquête. On doit ouvrir une enquête pour vérifier la véracité de tous ces faits-là et de voir comment est-ce qu'il faut prendre des mesures, des sanctions nécessaires si ça s'avérerait positive sur cette information, correcte ou exacte. Parce que je ne comprends pas. Très souvent, lorsque nous voyons des images et des informations, on voit comment on expulse les gens. L'expulsion, bon, c'est toute une procédure. Chaque pays a sa manière de voir les choses. Mais je crois que quand on est, on entretient les relations de bon voisinage entre États, c'est en tout cela aussi qu'il faut prendre des résolutions de toutes parts, que ce soit du côté de la République démocratique du Congo, que ce soit du côté de l'Angola. Moi, je crois que c'est des questions qu'on devrait examiner à fond et voir comment y trouver des solutions.
Mais je me pose des questions. Franchement, je ne veux pas comprendre cela. Je me pose des questions. S'agit-il des éléments incontrôlés ou des éléments vraiment des militaires angolais? Voilà des questions qui choquent surtout tous ceux-là qui travaillent, qui militent pour les droits humains, parce que l'Angola, c'est un pays qui est membre des Nations Unies, signataire de plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits humains. Je crois que c'est inacceptable et il faut rapidement ouvrir une enquête là-dessus.
Alors, vous parlez d'examiner cette situation. Qui devait examiner la situation, Madame Mwangilwa?
Examiner la situation au niveau des États. Au niveau des États, l'État congolais peut demander à l'État angolais peut dépêcher une mission d'urgence au niveau de l'Angola pour aller vérifier les faits. Parce que déjà, au niveau de Kamako, comme l'a dit les journalistes, les femmes ont déclaré. Moi, j'ai suivi des femmes qui ont déclaré, des victimes qui ont déclaré avoir été victimes de violences sexuelles, avoir subi ces actes-là. Alors, c'est une situation urgente. On ne doit pas attendre, on ne doit pas se limiter au niveau des déclarations. On doit aller vérifier les faits sur le terrain et voir comment aborder l'État voisin, comment trouver des mécanismes. Parce que ça fait longtemps on assiste à ces actes de barbarie. Des fois, on dit qu'on va prendre des dispositions. Mais moi, je me dis, même au niveau de la communauté internationale, on peut exiger une enquête internationale indépendante. Ça fait partie aussi des mécanismes. Et je crois qu'on ne doit pas laisser ces cas comme ça, juste au niveau des informations. Et d'ailleurs, j'avais suivi Mme Malgo, elle l'a dit, elle va elle-même se dépêcher pour aller en Angola ou envoyer une mission d'enquête, une mission pour faire rencontrer les autorités angolaises. C'est en cela. Et notre État devait également agir de la sorte.
Merci Madame Taïda Mwangilwa. En plus de la situation de Kamako, Kata Occidental, décrite par Madame Margot Walson, la même situation se vit aussi dans la province du Bas-Congo, où les expulsions des Congolais vivant en Angola vers les Bas-Congo sont quasi quotidiennes selon plusieurs sources. Au cours de l'année 2010, les ONG locales avancent le chiffre de près de 10 000 Congolais expulsés vers les frontières du Bas-Congo, chiffre que d'autres structures provinciales contestent, estimant que ces nombres sont très faibles par rapport à la réalité. Toujours d'après les ONG des droits de l'homme, ces expulsions se passent dans la plupart des cas dans des conditions inhumaines. Hier dimanche, par exemple, 114 Congolais, parmi lesquels 90 hommes, 2 enfants et 22 femmes ont été expulsés selon plusieurs sources, parmi lesquels des ONG du territoire de Mwanda. Décryptage de la situation avec vous, du Roger Nyampala, depuis Matadi.
D'après nos sources, les personnes expulsées ont déclaré avoir passé 4 mois dans les geôles de la province angolaise de Cabinda. Au dire des ONG et de certains services de l'État, côté congolais, les conditions d'expulsion sont les mêmes. Traitement inhumain, détriment de tous les biens, séquestration et autres. Des cas de viol sont souvent signalés. Certaines expulsions ne sont pas répertoriées par les services compétents selon ces ONG. Les raisons, la porosité des frontières congolaises et le nombre réduit des agents déployés au niveau des postes frontaliers congolais. Les frontières où l'on enregistre plus d'expulsions au Bas-Congo sont celles de Lufu, de Kimpangu, de Yema, de Yak et au niveau de certains villages du territoire de Lukula. À ce jour, il n'existe aucune structure d'accueil permanente devant accueillir, même pendant un bref séjour, ces expulsés au Bas-Congo. Ce, malgré les instructions données régulièrement par le gouverneur de province aux autorités politico-administratives des contrées où les expulsions ont lieu. Mbati Batia leur demande de prendre les mesures nécessaires pour assurer régulièrement la prise en charge et l'orientation des expulsés vers les lieux d'origine aussitôt leur arrivée constatée sur le sol congolais. Ce fut le cas lors de l'opération d'expulsion en masse au milieu de l'année 2010. S'agissant de pourparlers entamés l'année dernière entre la RDC et l'Angola à ce sujet, les ONG des droits de l'homme du Bas-Congo indiquent qu'à ce jour, il n'y a pas de résultats concrets sur le terrain. Au contraire, des expulsions sont même annoncées à la Direction générale de migration par les autorités cabindaises, chose qui ne se faisait pas auparavant. Notez que près de 90% des Congolais vivant en Angola sont expulsés pour un seul motif, à savoir séjour irrégulier sur le territoire angolais. Depuis la ville de Matadi, Guy Roger Nyampala pour Dialogue entre Congolais.
Merci Guy Roger pour ce reportage. Maître Oswald, même situation dans la province du Bas-Congo, aucune structure pour accueillir ces expulsés. Comment expliquer cela?
Toujours parler là-dessus, toujours les vu au début de l'émission. Et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il s'agit des éléments incontrôlés. de l'armée angolaise. Je pense qu'avec les répétitions que cela démontre et les différentes localisations de ces mêmes faits, il faut quand même se poser des questions. Je me demande, est-ce que les Congolais en situation irrégulière en Angola ne sont pas en train de payer les frais d'une relation, des relations diplomatiques un peu tendues entre la RDC et l'Angola?
Mais est-ce que ce n'est pas la faute aux Congolais aussi qui vont là-bas, ils n'ont pas de documents?
Il y en a autant en d'Angolais qui sont au Congo dans la même situation. Mais moi je dis, toujours dans les relations diplomatiques entre la RDC et l'Angola, n'oublions pas que la RDC et l'Angola sont ont des graves problèmes actuellement en ce qui concerne les contrôles de pétrole du bassin du plateau continental. Est-ce que les Congolais en situation régulière ne sont pas en train de payer les frais? Moi, je suis de ceux qui pensent, de ceux qui peuvent estimer que nous, ce sont des situations préméditées par le gouvernement angolais et que si la RDC ne fait pas des efforts pour essayer de gérer cette question, nous en aurons encore plus. Et c'est de là que je viens de dénoncer justement cette pratique que nous remarquons au sein des Nations Unies. De plus en plus, nous nous limitons à des étapes de dénonciation. Nous avons vu le 1er octobre le mapping être publié. Pendant un mois, pendant deux semaines, nous avons parlé de la crise humanitaire en RDC. Mais aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas de suite au mapping.
Mais vous voulez que la communauté ou l'ONU agisse à la place du gouvernement congolais?
En répondant à cette question, nous risquons d'aborder la deuxième partie qui concerne les mécanismes, mais je pense qu'il y a des solutions en amont et en aval. Parce que la personne qui vient, la personnalité qui vient de remarquer, qui vient de relever encore ce fait aujourd'hui, c'est la secrétaire générale adjointe des Nations Unies. Donc, si d'un côté la RDC peut rester laxiste et inerte sur la question, je pense qu'au niveau des Nations Unies, des résolutions doivent être prises pour non seulement condamner, mais aussi présenter des mécanismes juridiques et judiciaires capables de mettre fin à ce genre de pratiques. Parce qu'après tout, Madame l'a relevé, ce sont des crimes contre l'humanité.
Alors, M. Spaz, on va prendre une question pour vous qui vient de Lubumbashi.
Jean Bosco, Kalala, Nyendou de Lubumbashi. Je crois que expulser nos compatriotes de l'Angola est tolérable. Mais les violer et les maltraiter en les expulsant est insupportable. Nous sommes aussi un État. Je souhaite bien que notre État prenne ses responsabilités et qu'il saisisse les instances judiciaires internationales.
Maître Oswald, réaction par rapport à cet auditeur?
L'auditeur a parfaitement raison en ce que je comprends. C'est que nous l'avons déjà relevé, nous ne sommes pas en train de soutenir des situations de séjour en situation irrégulière en Angola, tout comme dans tout autre état de la sous-région. Mais seulement je relève que un minimum de traitement doit être réservé aux étrangers qui vivent. Nous avons des Angolais qui sont en situation irrégulière en République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas, nous ne sommes jamais tapés ce luxe de violer des femmes, et dépouiller des Angolais qui se retrouvent en République démocratique du Congo. N'oubliez pas que les relations diplomatiques sont régies par un grand principe, le principe de la réciprocité. Si la République démocratique du Congo devait appliquer ce principe, dans quel monde vivons-nous maintenant? C'est ça la question que nous devons nous poser. Nous pensons que le laxisme de notre État fait à ce que l'Angola peut se permettre, continuer de se permettre ce genre de pratiques, et c'est là où nous pensons que nous devons dénoncer. Le gouvernement doit dénoncer, les Nations Unies doivent dénoncer et prendre des résolutions, pas se limiter à l'étape de dénonciation.
Merci, Maître Osuvaz. Dismas Kitenge, un auditeur anonyme qui nous écrit depuis Kananga, qui dit ceci: si le gouvernement congolais ne réagit pas, c'est parce qu'il se retrouve en position de faiblesse par rapport à, face à l'Angola. Comment vous répondez à cet auditeur?
Je dis que pour pouvoir répondre vraiment à cette question, il faut prendre deux ou trois éléments en considération. Le premier élément, c'est que dans les relations diplomatiques entre la RDC et l'Angola, l'Angola est en position de force, effectivement. Pourquoi? Puisque l'Angola ne tient même pas, n'informe pas, ni ne tient pas non plus compte de la position congolaise dans la concrétisation de ses actes. Donc ça prouve qu'il y a un sérieux problème diplomatique. Et dans cette situation, l'Angola, je crois que a des rapports de force qui dépassent celui de la RDC. deuxième élément à prendre en considération, à mon avis, c'est de dire aujourd'hui la réaction du gouvernement congolais face à cette situation. Au niveau des relations diplomatiques, il y a le principe de réciprocité. Mais ce principe de réciprocité concerne bien les relations diplomatiques, mais ne concerne pas la question des droits humains. Pour le droit international des droits de l'homme, le principe de réciprocité en matière de respect des instruments internationaux ne joue pas. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que la RDC ne peut pas aujourd'hui dire que, comme l'Angola expulse les citoyens congolais en violation par des procédures internationales et en violant les droits de l'homme, la RDC aussi fera le même. Donc là, en matière de droit international des droits de l'homme, le principe de réciprocité ne fonctionne pas. C'est ça l'exception du droit international des droits de l'homme par rapport au droit international classique. Troisième chose qui est très importante, c'est que les droits internationaux des droits de l'homme, même si les États ne réagissent pas, pour les cas de la République démocratique du Congo, les victimes elles-mêmes peuvent aussi porter plainte contre l'État angolais. Et ça aussi, c'est quelque chose que la société civile, les victimes elles-mêmes, avec tous les citoyens congolais, y compris la communauté internationale, devra dénoncer. Et là, le rôle de la communauté internationale est à encourager, puisque mieux vaut tard que jamais, je pense que les victimes aussi devront interroger non seulement le gouvernement congolais, mais aussi la communauté internationale pour dire que ce sont des crimes graves qui peuvent rentrer dans ce qu'on appelle les crimes internationaux. Pourquoi pas, on ne peut pas parler de crimes contre l'humanité à travers de telles activités. Ce sont des crimes qui ne sont pas commis dans le cadre des conflits armés. Ils peuvent être assimilés à des crimes contre l'humanité. En tant que tel, ça intéresse toute la communauté internationale pour pouvoir dénoncer et demander que les sanctions soient prises contre les auteurs de ces actes qui sont présumés pour le moment être les forces de sécurité angolaises.
Merci, Dismas Kitenge, Madame Saïda Mwangiloa. Vous êtes activiste des droits des femmes. Quelles actions vous menez auprès de ces femmes violées qu'on retrouve soit à Kana, au Kasai occidental ou même dans la province du Bas-Congo?
Et là aussi, je crois qu'il y a de sérieux problèmes parce que quand vous suivez ces femmes-là, elles vous disent qu'elles n'ont même pas la possibilité d'avoir accès aux soins médicaux après qu'elles aient été victimes de ces actes de viol. Et là, ça pose des problèmes. Je venais de suivre tout à l'heure l'élément nous fourni par le journaliste de Radio Okapi Amatadi en disant que le gouverneur aurait donné des instructions aux autorités locales de pouvoir prendre des dispositions utiles en faveur des expulsés. Et c'est en tout cela qui se pose des problèmes. Parce que lorsque les autorités locales n'ont pas le minimum nécessaire pour accueillir les expulsés, là, de notre côté, c'est déjà un problème. Et nous, au niveau des organisations, nous essayons de travailler avec des plateformes, avec les structures en place, qui du reste aussi n'ont pas aussi des moyens à leur disposition. Ils doivent attendre, ils doivent préparer des éléments, des petits projets pour faire entrer ci et là. Et moi, je me dis qu'on ne peut pas se limiter à l'aide venue de l'extérieur. Les organisations qui travaillent dans les domaines de protection des droits des femmes doivent aussi bénéficier des subsides de la part de l'État. Et c'est cela que les choses doivent, c'est que les choses doivent fonctionner. Mais pour le moment, je pense que nous devons aussi constituer des mouvements associatifs forts. Parce que lorsque nous ne sommes pas en mesure de mener des plaidoyers, nous suivons les informations, mais les organisations de femmes prennent du temps pour agir. Il faut agir le plus rapidement possible. Il y a un temps, on était en train de dire.
Mais pourquoi ces organisations prennent beaucoup de temps pour agir?
C'est là que j'ai dit que nous devons aussi nous interpeller nous-mêmes comme structure, comme organisation féminine, comme mouvement associatif militant pour les droits des femmes, parce que souvent aussi, on se met dans des querelles, on se met dans des petits conflits, alors qu'il faut absolument agir pour être vraiment en compassion avec les victimes. C'est cela qui se pose le problème. Et je crois qu'à ce niveau-là, si nous étions forts comme mouvement associatif, on allait atteindre le ministère des Affaires étrangères, on allait atteindre le ministère des Droits humains, on allait parler, on allait poser des actes. Et je crois que les organisations sont là pour pousser les autorités à pouvoir agir à temps. C'est cela notre rôle, mais je crois qu'à ce niveau-là, nous devons nous poser des questions par rapport à notre manière de travailler sur le terrain.
Alors, on va prendre cette question pour vous qui nous vient de Mbanda, madame Saïda Mwangiloa.
Une telle déclaration ne peut qu'être saluée par l'ensemble des Congolais pour interpeller la conscience de nos dirigeants. Nos autorités devraient plutôt prendre les devants pour que l'Angola puisse expulser les Congolais dans les conditions requises. Parce que la population est l'un des éléments les plus importants qui constitue un État.
Alors, madame, brève réaction.
Non, le problème, c'est pas d'expulser les Angolais. Le problème, c'est que les choses soient faites de manière à respecter les relations diplomatiques. Ce n'est pas parce que on a suivi que non, il y a des Congolais qui ont été expulsés de l'Angola, que nous pouvons nous mettre à expulser également ou demander l'expulsion des Angolais qui vivent au Congo. Ça, c'est
parce qu'ils ne sont pas en situation régulière.
Qui ne sont pas en situation régulière, il appartient à nos services administratifs de pouvoir agir de manière à faire qu'ils remplissent aussi les conditions. Mais ce n'est pas ça le problème. Je crois que vous avez suivi l'intervention de notre ami de tout à l'heure qui a parlé de la réciprocité qui n'existe pas en cette matière ici. Ici, ce n'est pas parce que l'autre a mal agi que vous aussi vous allez mal agir, pas du tout, parce que c'est un problème de droit. Les Angolais qui vivent ici doivent aussi être protégés par le gouvernement congolais. Il en est de même des Congolais qui vivent en Angola doivent être protégés, et s'il faut les expulser, il faut respecter toute la procédure.
Merci madame. Expulsion des Congolais de l'Angola, Margot Wasson, secrétaire générale adjointe des Nations Unies, en charge de lutte contre les violences faites aux femmes, a qualifié de dramatique la situation des femmes congolaises victimes de violences sexuelles lors de ces opérations d'expulsion. Quel mécanisme mettre en place pour que ces expulsions se déroulent dans le respect des droits humains? C'est la deuxième partie de notre émission. La suite de l'émission, c'est après le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Maître Spal de Bafouni Mbaka, il n'y a pas que les violences sexuelles subies par les femmes qu'on rencontre lors de ces expulsions, il y a aussi des tortures, il y a plusieurs sévices que les Congolais connaissent lors de ces expulsions. Quel mécanisme on peut mettre en place pour que ces expulsions se déroulent ou se fassent dans de bonnes conditions?
D'abord, je dirais que les mécanismes doivent être situés la réaction congolaise. D'abord, je commence par la réaction par rapport à ce qui a été déjà fait. La réaction doit être située à trois niveaux. D'abord, au niveau diplomatique. Il faudrait que la République démocratique du Congo puisse rencontrer l'Angola pour tabler sur la question.
Mais ils se sont déjà rencontrés, à ma connaissance.
Cette fois, ils doivent se rencontrer pour parler de choses sérieuses, parce qu'apparemment, quand ils se rencontrent, c'est pour se raconter autre chose que les vrais problèmes des populations expulsées. La deuxième solution doit être juridique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas réserver l'impunité aux auteurs de ces genres d'actes. Il faudrait que Madame la secrétaire générale adjointe puisse saisir le Conseil de sécurité, faire son rapport au Conseil de sécurité, et qu'une résolution puisse saisir officiellement la Cour pénale internationale pour connaître cette question. Parce qu'après tout, il s'agit de crimes contre l'humanité que nous sommes en train de commettre. Les crimes contre l'humanité ne se commettent pas seulement dans un contexte de conflit armé, et dans des conditions telles que les choses sont en train de se dérouler en Angola. Il faudrait que la Cour pénale internationale puisse être saisie sur la question. Cela peut être fait par le Conseil de sécurité ou même par l'État congolais. Je voudrais rappeler un fait. Savez-vous que la Guinée Conakry a saisi la Cour internationale de justice à l'époque parce que le gouvernement congolais avait pillé un sujet guinéen, M. Diallo. Et nous avons des Congolais qui sont en train d'être dépouillés, torturés et violés. Mais nous avons une indifférence, nous ne pouvons même pas saisir les juridictions internationales capables de sanctionner ce genre de comportement. Il faudrait des solutions juridiques. Après cela, il faudrait des solutions au niveau social. C'est-à-dire que les faits sont déjà arrivés, il faudrait que le gouvernement congolais et les ONG puissent établir un plan de gestion de cette crise, parce qu'il s'agit bien d'une crise humanitaire. Il faudrait accueillir ces personnes. Il faudrait les soigner pour ceux qui en ont besoin. il faudrait resocialiser ces personnes qui sont en train de souffrir, qui ont été expulsées. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce qui est pour qu'une cela ne se répète plus? Je pense qu'après avoir rempli les solutions que nous venons de donner là, les conséquences seront telles que l'Angola ne se permettra plus d'entreprendre ce genre de pratiques sur des populations autant congolaises que d'autres populations. J'ai fait remarquer que, à ma connaissance, il n'y a que des Congolais qui connaissent, qui subissent ce genre de traitements. Je ne sais pas si ce n'est que des Congolais qui vivent en situation régulière en Angola, mais je continue toujours à me poser des questions. Est-ce que ces Congolais ne sont pas en train de payer les frais des relations diplomatiques tendues entre l'Angola et l'Arabie?
Vous insistez sur ça, Maître Osvald. Dismas qui tenait en plus des mécanismes que Maître Osvald a proposé. Il a proposé la rencontre diplomatique, une solution juridique et puis une solution au niveau social. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer de plus?
Je pense qu'il faudrait d'abord qu'il y ait une commission d'enquête internationale. Commission d'enquête internationale qui peut être composée à la fois des experts congolais, angolais et des Nations Unies pour pouvoir enquêter et établir les responsabilités. Les responsabilités, il y a certes les victimes qui sont identifiées, il faudrait qu'on réussisse à établir les responsabilités, c'est-à-dire les auteurs. Qui sont les auteurs et pourquoi? Ça, c'est une commission d'enquête internationale qui peut bien faire ce travail-là en toute impartialité et dans laquelle ferait partie également les experts de deux pays. Mais la conduite de ces enquêtes doit être menée, dirigée par un expert des Nations Unies, en l'occurrence le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Ça, c'est la première action. La deuxième action, en plus de ce qui a été dit, c'est de saisir le Conseil des droits de l'homme dans sa prochaine session à Genève pour qu'elle puisse également faire une déclaration. Cet engagement-là aussi a mené une enquête, a demandé également des explications aux autorités angolaises. Troisième piste d'enquête, c'est dans le cadre de l'impunité. Mais je ne veux pas revenir sur ce que l'intervenant qui m'a précédé a essayé de soulever, mais je vais compléter. Dans le cadre de la lutte contre l'impunité, comme les présumés auteurs sont de Angolais, il faudrait aider les victimes angolaises à déposer des plaintes devant les tribunaux angolais. Ce sont les Angolais qui sont à ce point compétents pour poursuivre.
Nous avons un problème de communication des lignes avec Dismas Kitenge. La réalisation va essayer de le retrouver. Madame Faïda Mwangilwa, qu'est-ce que vous proposez comme mécanisme pour que ces expulsions se déroulent dans de bonnes conditions?
Merci beaucoup. Je crois que pour le moment, c'est que moi je peux proposer parce que la population congolaise a besoin d'avoir beaucoup plus d'informations.
En tant qu'activiste des droits des femmes,
la population congolaise a besoin d'avoir beaucoup plus d'informations si notre Parlement peut se saisir du dossier et interpeller le gouvernement pour avoir beaucoup plus d'informations par rapport à tous les accords, aux conclusions de toutes les rencontres qui ont déjà eu lieu entre nos institutions et les institutions angolaises en matière sur le plan diplomatique. On doit comprendre qu'est-ce qui a été arrêté par rapport aux expulsions des Congolais vivant en Angola. On doit comprendre les recommandations qui ont été formulées et quel pays, quel parti qui n'a pas respecté ces recommandations. Nous avons besoin de toutes ces informations-là. Parce que c'est extrêmement grave. Attendez parler seulement de viol des femmes et puis après, on n'a pas la vraie information. C'est déjà une information de notre Parlement, parce que nous avons quand même un Parlement. Doit en tout cas interpeller les gouvernements et le peuple va suivre toutes ces informations et voir comment nos parlementaires peuvent également formuler des recommandations. Mais moi, je crois, pour pareille question, il faut exploiter vraiment le volet diplomatique. Nous devons, cette fois-là, comprendre s'il existe encore de bonnes relations entre nous et l'Angola. Parce que s'il s'avérerait qu'il est vrai, vraiment, que les Congolais sont en train de subir même de telles humiliations, là, ça pose problème. S'il s'agit des éléments incontrôlés, mais aussi, nous devons avoir la vraie information. Donc, moi, je crois qu'à ce niveau-là, mais aussi, il y a l'appui médical qu'on doit apporter aux structures d'accueil de tous ces expulsés. Parce qu'on ne peut pas tout simplement dire, parce que nous avons même la Commission nationale pour le
réfugiés. Est-ce que la Commission nationale pour les réfugiés a des moyens pour accueillir ces personnes expulsées à tout moment ou attendent des moyens seulement des agences humanitaires? Nous devons également appuyer la Commission nationale pour les réfugiés, appuyer les autorités locales qui se trouvent au niveau des deux frontières et voir comment est-ce que nous pouvons aider nos populations. Mais aussi, nous devons plus que jamais, en tout cas, travailler pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Parce que ce n'est pas pour rien aussi qu'on doit se poser des questions. Après avoir suivi ces expulsions méchantes, moi je crois qu'à un certain moment, les gens devraient prendre conscience. Mais on se retrouve devant une situation difficile. Les gens restent mais se disent, mais comment est-ce qu'il faut scolariser les enfants? Moi je crois qu'à ce niveau-là, l'année 2011 doit être une année dite sociale. Parce que les conditions de vie des populations sont en train de se détériorer et c'est pas pour rien que les gens acceptent de vivre des humiliations tous les jours de la part des autres pays. Mes collègues venaient de dire qu'ils se posaient des questions. Si vraiment les autres citoyens de différents pays vivent les mêmes conditions que les Congolais en Angola ou dans d'autres pays, nous sommes en train de nous poser des questions. Mais l'important c'est de travailler sur l'amélioration des conditions de vie des Congolais.
Alors, il y a cet auditeur, madame Saïd, Jean-Pierre de Tissangani en province orientale qui dit ceci: je pense qu'une simple déclaration ne suffit pas, mais il faut plutôt créer des mécanismes pour empêcher l'immigration clandestine des Congolais en Angola. Aussi demander aux Congolais qui migrent de respecter la loi sur la migration.
Oui, effectivement, il faut respecter la loi sur la migration. Ça, c'est une recommandation. Et nous devons apprendre cela. On ne peut pas toujours travailler en se disant, je dois quitter mon pays pour aller ailleurs. Mais si vous voulez aller ailleurs, il faut respecter les normes. Mais aussi, la vie, c'est pas seulement ailleurs. La vie, c'est au Congo. Nous n'avons pas un autre pays. Nous sommes d'abord des Congolais et nous devons chercher à améliorer notre condition de vie comme citoyens congolais.
Merci, madame Saïda Mwangilwa. Dismas Kitenge, on avait un petit problème de ligne. Vous étiez en train de parler de l'impunité. Vous me suivez?
Oui, je vous suis, madame. J'étais en train de dire qu'il faut lutter contre l'impunité. Il y a d'abord le mécanisme de la justice angolaise, ensuite le mécanisme de la justice internationale qui comporte la question de la compétence universelle. Si la justice angolaise ne réussit pas à sanctionner les auteurs de ces actes, on peut les poursuivre aussi lorsqu'ils sont de passage dans d'autres pays. Puisqu'en fait, les crimes qui se commettent là sont des crimes internationaux. La torture fait partie aujourd'hui d'un crime international. Les violences sexuelles font partie, les viols font partie des crimes internationaux. Également, les autres graves violations de droits de l'homme. Je disais, on va terminer par aussi la Cour pénale internationale. Mais pour actionner la Cour pénale internationale, nous savons qu'il y a trois modes de saisine. Les procureurs doivent se saisir d'office. Il y a la partie, il y a le Conseil de sécurité. Mais pour le cas d'espèce, je pense qu'il est très important que les victimes s'expriment pour pousser le procureur à ouvrir une enquête là. Et si il est admis que ce sont des crimes de contre l'humanité, par la répétition de ces actes, il y a un élément très important sur lequel il faut insister. Est-ce que c'est une politique qui vise l'extermination, c'est une politique qui vise des attaques généralisées ou des graves violations des droits de l'homme contre une catégorie de population, ça peut être assimilé comme des crimes contre l'humanité. Alors je disais, tous ces mécanismes-là doivent être, disons, exploités pour lutter contre l'impunité. Et effectivement, lorsqu'on aura établi la responsabilité des auteurs, il faudrait que les auteurs indemnisent les victimes. Mais l'indemnisation des victimes, si ce sont des auteurs qui ont agi au nom de l'État, l'État angolais doit le faire.
Merci Dismas Kitenge, je considère cela aussi comme votre conclusion parce que nous sommes à la fin de l'émission. Maître Osvald Bakinimbaka, en un mot, votre conclusion.
Je dirais que le gouvernement congolais sorte de son laxisme, de son inertie. Il ne faut pas toujours réserver des points de presse quand il s'agit de certaines choses et de choses importantes, on ne sait pas en parler. Il faudrait prendre des solutions qui s'imposent.
Merci Maître Osvald, Madame Paida Mwangilwa.
Toute ma compassion aux victimes, parce que ce matin j'avais suivi la déclaration d'une des victimes, mais aussi ici toutes les organisations qui travaillent pour le respect des droits humains doivent en tout cas s'élever pour exiger à ce que
de mécanismes soient pris pour la protection des citoyens congolais vivant dans tous les États voisins et pourquoi pas en dehors du continent.
Merci Madame Faïda Mwangiloua, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe du dialogue entre Congolais, Guy Maté, Alain Roum, Samuel Kachak, sur la supervision de Pélé Kipela Mondo. Merci à Némi Kindo qui est à la technique. Kéline qui vous a présenté cette émission, retrouvez-la sur notre site internet www.radioaucatili.net et puis tout le demain 14h, heure de Kinshasa, en plus de programmes sur la fréquence de la paix. Okapi, okapi.